nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Plus jamais une telle occasion, que les dés sont jetés, donc elle n'a qu'à aller jusqu'au bout, que son bonheur en dépend, que ce n'est pas qu'elle n'est pas une lâche. Alors terminons le travail. Le temps passe et dès qu'elle a décidé de finir la chose, elle est ne pense à rien, tout est réglé. À 1h du matin, alors qu'il y a nul bruit, elle sort de la chambre avec son polochon, pas de bruit. Elle va vers la chambre de ses parents, pose l'oreille sur la porte, tout est calme. Elle entre dans la pièce, à peine éclairée par les fentes des volets lyonnais mal fermés. Elle s'approche du lit. Ils dorment profondément tous les deux, l'un contre l'autre sur le dos. Elle souffle un bon coup et plaque le polochon sur les deux visages et enfonce ses mains sur chacun d'eux. Il cherche à se défendre, à se débattre, mais leurs mouvements sont mous, car ils sont à moitié endormis, ou encore endormis. La fille enfonce très fortement ses mains sur les visages, jusqu'à ce qu'elle sente plus le moindre mouvement. Ils n'ont presque pas réagi, trop endormis. Une fois qu'elle est assurée de leur mort, elle va chercher dans l'armoire les économies, sort de la pièce et va dans sa chambre. Il est encore trop tôt pour aller prendre le train et s'asseoir pour attendre. Ne pense à rien, n'a aucun remords, ne pense même pas qu'elle a deux cadavres dans l'appartement. C'est comme s'ils n'existaient pas. Puis à 5h, elle prend sa valise et sans bruit, elle sort de l'appartement. Le jour commence à se lever. Comme c'est dimanche, il n'y a encore personne dans les rues. Arrive à la gare, prend un billet, attend sur le quai debout le train. Dès qu'il arrive, elle entre dans son compartiment où il y a déjà deux personnes. Tout à coup, par peur qu'on l'observe, qu'on lui pose des questions, elle se met à parler d'une façon décousue de choses, décousue et incompréhensible pour les autres. Les deux voyageurs la laissent parler. Puis à la fin du voyage, ils arrivent à Paris. La gare, la foule lui font peur. La ville, elle ne sait pas où se diriger. Puis, elle se souvient que le prince doit monter les Champs-Élysées. Elle demande comment il faut faire pour y aller, mais elle veut y aller à pied. La voilà à Paris, avec sa valise à la main, qui marche d'un bon pas. Elle trouve Paris grand, mais moins beau que prévu. Après une heure d'une longue marche, elle arrive aux Champs-Élysées. Il y a déjà foule, elle a mis des barrières et la police surveille. Les drapeaux des deux pays flottent tout le long de l'avenue. Elle réussit à se faufiler sur le devant contre les barrières. Elle est plaquée contre la barrière par la foule qui est derrière elle. Un gros homme qui est à côté d'elle lui dit « Vous pas tarder à venir. Vous avez encore une heure à attendre. » Elle attend une heure contre la barrière, debout, elle a faim, commence à être fatiguée. Mais elle n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut qu'elle reste pour voir le passé. Et elle est sûre qu'il va arriver quelque chose qui fera qu'il l'amènera avec lui. Après une heure d'attente, avant qu'elle ne voit quoi que ce soit, elle entend des cris de joie, la foule qui s'agite. Enfin, elle voit arriver de loin des berlines découvertes avec sur les deux côtés la garde républicaine. Elle a le cœur qui bat très fort. Enfin, il va passer près d'elle. Il passe près d'elle, le temps d'un éclair. Elle n'a rien pu voir. En les voyant s'éloigner, sa vue se trouble. Puis, semble étouffée, perd l'équilibre et le trou noir. Elle se réveille, des visages l'entourent, un policier lui demande « Vous allez mieux ?» Elle fait vouille de la tête et essaye de se relever. Le policier l'aide, un autre vient et lui dit « Devrions l'amener au commissariat pour qu'elle se repose un peu. » « Tu as raison !» Elle ne pense à rien, à la tête vide, et se laisse mener par ses agents. Au commissariat, on la fait asseoir, on lui demande ses papiers. « On ne sait jamais s'il faut appeler la famille. » Elle le leur donne. Il les regarde. « Ah, vous êtes de Lyon !»« Vous venez faire quoi ici ?»«
Mais, visiter. »
Ah. Vous êtes en vacances, comme l'on dit. Lyon, c'est bien. Mais les canuts, pendant les dernières émeutes, mon beau-frère a fait la police. Ça a été dur.
Elle lui dit, je suis pas canu, et puis j'habite la colline de Fourvière.
Ah, ça c'est mieux.
Elle a la tête qui tourne. Elle ne sait plus ce qui lui arrive. Elle a l'impression de vivre un rêve étrange. Le meurtre de ses parents ne fait pas partie de ce rêve. Elle les a complètement oubliés. Elle se lève et dit « Je vais vous laisser, je me sens tout à fait bien maintenant. »«
Comme vous voudrez. »
Il lui tend ses papiers. « Merci. » Elle les met dans sa valise et sort du commissariat. Le jour est déjà bien avancé. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire ou devenir. Sa déception est d'oublier et puis... Elle a encore dans sa tête ce prince. Mais petit à petit, ta tête devient vide. Elle sait qu'elle ne peut pas aller de là, retourner en arrière. Elle doit toujours marcher devant elle. Toujours. Après avoir marché un long moment dans les rues, elle entre dans une pâtisserie. et s'achète un millefeuille qu'elle va manger assise sur un banc. Un jeune homme, l'air sympathique, s'assoit à côté d'elle. Il regarde la valise et lui dit « Vous débarquez ? Comment ? Vous venez d'arriver à Paris ? Oui. » Il lui dit, en lui souriant, ce qui le rend sympathique. « Paris, c'est une belle ville, mais elle n'est pas facile. C'est difficile d'y trouver un logement, du travail, des amis. » Elle lui sourit et lui dit « Je pourrais, si vous voulez, vous trouver un logement ?» Elle rougit et lui dit « Il est tard pour trouver une chambre. Et puis à cause des cérémonies, les hôtels sont bondés. Comment allez-vous faire ?» Elle lui répond « Je ne sais pas. » Il lui dit « Écoutez, vous avez l'air sympathique. Je connais un ami qui est hôtelier. Et je suis sûr qu'il va vous... Je vais vous mener chez lui et puis il va vous trouver une chambre. Venez. » Il se lève, elle aussi, et elle le suit. Elle le suit parce qu'il a l'air gentil garçon, un petit garçon qui lui fait du bien. Après toutes ces déconvenues, tout ce qui lui est arrivé, cela réconforte le cœur qu'un gentil garçon, bien de sa personne, veut s'occuper de soi. Il l'amène dans des ruelles étroites, sales, où les gens ont des allures bizarres. Il ressemble à des caricatures. Heureusement qu'elle est avec lui, car autrement, elle n'oserait pas s'aventurer dans de tels endroits. Il marche sans lui parler et va d'un bon pas. Lui semble être dans son univers. Il a l'air de connaître tout le monde, et pourtant, il ne leur ressemble pas. Arrivé devant l'entrée d'un hôtel qui se trouve dans un immeuble lépreux, il lui dit « C'est ici ». Elle va pour regarder la façade, il la prend par le bras et la fait entrer par une petite porte étroite. Petit couloir où se trouve le concierge à sa banque. Lumière lugubre, mur poussiéreux. Le concierge qui lisait son journal lève la tête et dit « Une nouvelle pensionnaire ?»« Oui. » « Je te donne la chambre 12. » Lulu a claqué. Elle s'est ouverte les veines. Le jeune homme lui dit, en prenant la clé, « C'est Polo qui ne doit pas être content. » La jeune fille ne se sent pas rassurée. Elle aimerait partir avec le gentil garçon. Mais le gentil garçon la tient bien au bras. Il lui dit, « Viens, on monte à la chambre. » Il la pousse dans les escaliers étroits qui sentent la javel. Au premier, il ouvre la porte d'une chambre, pièce avec un lit, une table de nuit, un paravent, et dessus, il y a une... Et derrière, il y a une table de toilette avec broc. Il ferme la porte à clé et n'ose rien dire. Comme cela, nous serons tranquilles. C'est bien, hein? Il s'approche d'elle, lui fait poser sa valise, enlève son manteau. Elle laisse faire. Le manteau tombe à terre. Il la prend dans ses bras, puis l'embrasse sur les lèvres. Elle laisse faire. Avant que son visage ne se plaque contre elle, elle a vu ses jolis yeux si doux, si tendres. Elle se laisse embrasser et toucher. Puis, tout en la caressant, il la déshabille. Là aussi, elle laisse faire. Depuis hier, des dés sont jetés. Sa vie est jouée. Une fois nue, il la couche sur le lit, la couvre de baisers, puis se déshabille. Elle le regarde, les yeux mi-clos, soumise à son destin. Elle avait prévu autre chose. La vie lui apporte des surprises. Qui aurait cru qu'elle perde sa juvénilité comme ça, avec un inconnu dans un drôle d'endroit. avoir fait tout ça pour arriver là. Une fois qu'il eut fini la chose, il s'est lavé, nettoyé un peu et habillé. Il lui a dit, tu es à moi désormais, tu feras tout ce que je te demanderai. Demain, je vais t'apprendre les rudiments du métier. Il sort de la chambre et la ferme à clé. La jeune fille se dit qu'il ne faut surtout pas penser que les dés sont jetés, qu'elle ne peut rien faire d'autre que subir. Elle se sent même plus humiliée. Elle a la tête vide, ne regrette rien, ni son sort, ni ce qu'elle a fait, surtout pas son crime. Le lendemain, dans la matinée, la porte s'ouvre. C'est lui avec un plateau pour le petit déjeuner. Il entre, pousse la porte avec le pied et va poser le plateau sur le lit. Il lui demande, bien dormi? Elle ne répond pas. Il lui dit, mange, après nous allons discuter. Elle mange et boit sans faim, ne sent pas le goût des choses, rien, la tête vide. Après qu'elle eut fini de manger, il met le plateau à terre et lui explique comment elle doit se comporter avec le client, combien il doit lui donner, ce qu'elle doit faire de cet argent. Tu as bien compris? Elle fait vouer de la tête. Elle sera docile parce que la vie l'a voulu qu'elle soit là. Si un prêtre l'avait récupérée pour qu'elle devienne sa bonne, ça aurait été la même chose. Docile, docile, soumise, toujours soumise au destin. Il l'embrasse sur la joue et lui dit, je vais te faire venir une fille qui va t'apprendre à t'habiller et te maquiller. Tu es pas mal, mais tu ne sais pas te mettre en valeur. Tu fais province. Il l'embrasse sur la joue et lui dit encore, tu es une gentille petite fille. On s'entendra très bien, tous les deux. Je vais te laisser. Je dis à une fille de passer, et il la quitte en fermant à clé. Un quart d'heure plus tard, une fille entre. Je suis Julie, je viens te voir pour t'apprendre certaines choses. Tu t'appelles comment? Elle ne sait quoi répondre et lui dit, Muriel. Deux jours plus tard, elle commence sa nouvelle vie, avec son maquillage, sa nouvelle coiffure et ses fringues. Robe rouge, dessous noir, elle est méconnaissable. On lui a dit qu'elle doit s'appeler Valentine. De toute façon, elle s'en fiche. Muriel n'était pas son vrai nom. Et puis, prénom pour prénom, qu'est-ce que ça peut faire? Elle n'est plus rien. Le vide complet, une légume. Si elle croyait en Dieu, malgré qu'elle ait vécu au milieu des bigots, et peut-être à cause de cela, elle ne croit pas du tout. Elle aurait pu se dire que Dieu la punissait de ses crimes en la faisant une légume. Pas de passé, la tête vide, pas d'avenir, se laisser guider et mener comme ça. Voilà, en se fichant de tout. Mais elle ne regrette rien, même cet amour idiot pour un inconnu presque irréel. Le temps passe, cela ne l'enlève plus de faire ceci plutôt que cela. Elle ne voit plus le côté lugubre des lieux ni des gens. Elle s'en fiche, c'est son univers, les clients sont des gens qui passent. Un jour, cela devrait arriver, il y a une descente de police et elle embarque comme les autres commissariats. On les fait passer une à une, pour leur identité. Qu'elle soit arrêtée, cela ne gêne pas trop, puisque les autres le sont aussi. Lorsque vient son tour pour l'interrogatoire, on la fait asseoir. Vos papiers, elle les donne. Votre nom, Valentine. C'est marqué sur vos papiers, mademoiselle, habitant montée du Carmel, Lyon. Alors, elle ne répond pas. Elle n'a rien à répondre. On lui parle de choses qui ne sont plus elle. Elle est Valentine et c'est tout. Le reste, elle a oublié.
Ça fait longtemps que vous êtes à Paris. Que faites-vous? Quel est votre souteneur? Répondez. Pourquoi avez-vous quitté Lyon?
Notre commissaire vient voir l'autre et lui demande « Tu t'en sors ?»
Elle ne veut rien dire.
L'autre ouvre les épaules et dit « Une débutante.
Faut voir. »
L'autre lui montre sa carte. « Tiens, je ne sais pas, mais son nom me dit quelque chose. » Il s'éloigne avec la carte. Puis il revient.
Ouh, dis donc, il y a quelque chose sur elle. Elle est recherchée. Ses parents ont été retrouvés morts chez eux et étouffés.
Mademoiselle, vous le saviez ?
Elle ne répond pas. Cette histoire n'existe plus pour elle.
Mademoiselle, vous ne répondez pas ? Vos parents sont morts le jour de votre disparition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Elle ne répond pas.
Qu'ont-il à lui parler de choses qui n'existent plus pour elle?
Faudrait que vous nous répondiez, mademoiselle. Nous dire le pourquoi de votre départ. Comment se fait-il que l'on vous a retrouvé dans un endroit peu rehaussant pour ses morts?
Il ne répond pas.
Que leur dire? Le pourquoi de son départ?
Il ne comprendrait pas.
Personne ne peut comprendre. Qui peut comprendre qu'il fut normal puisse tuer ses parents par sang-froid et rester sans remords?
Pourtant, je ne suis pas folle, non, mais même être peut-être trop lucide.
Oui, je ne suis pas folle, mais trop lucide.
Elle est ramenée à Lyon pour un interrogatoire. À la préfecture de police, à l'interrogatoire, elle ne répond pas. On se demande si elle comprend ce qu'on lui dit. On la ramène sur le lieu du crime. Et là, son retour dans ces lieux où elle croyait ne plus jamais revenir, cela lui fait quelque chose. Elle revoit tout ce qu'elle a vécu. Pas le crime, mais le pourquoi, sa vie intérieure, la tristesse, tout quoi, ses ennuis terribles, tout cela, elle ne le veut pas. Elle est prête à refaire son crime et revivre ce qu'elle a vécu à Paris. Mais sa vie monotone à Lyon, non, non et non. Rien que le fait d'être entrée dans cet appartement, elle se sent enfermée vivante. Alors elle se met à dire « Oui, c'est moi qui les ai tués. Mais je ne veux rien dire de plus. D'accord, bon, vous ne comprendriez pas. J'accepte votre sentence sans me défendre. Enfermez-moi, tuez-moi, faites ce que vous voudrez. Je ne regrette pas mon crime. Je ne voudrais pas le pourquoi. » Et elle se tait. On la menace, on veut la forcer à parler, rien n'y fait. Même la torture n'arrive pas à la faire parler. Son silence va la sauver de la peine de mort. On la prend pour démente. D'ailleurs, elle a tué pourquoi? Elle était bien traitée dans sa famille. Une famille respectable. Elle ne manquait de rien. Et elle était décrite, avant son crime, comme une personne sérieuse et douce. Ce geste gratuit est le geste d'une folle. On la met dans une maison de malades mentaux, un asile, où elle finit ses jours. Charles-André a enfin fini son roman. Il était parti pour une petite nouvelle et petit à petit ça a pris de l'ampleur. C'est devenu un gros roman, écrit dans la fièvre d'un seul jet, en quelques jours et nuits. Pendant qu'il écrivait, il ne sortait plus de sa chambre, ne voyait plus sa sœur. Elle le comprenait qu'il fallait le laisser tranquille. Maintenant, ouf, la chose est finie. Ce que vous avez lu ou entendu, c'était qu'un infime résumé de cette œuvre. Il a fini, il est heureux, mais en même temps un grand vide s'est emparé de lui, un manque. Les personnages d'histoire lui manquent, se sent seul et vidé, n'a goût à rien, la fièvre est passée. Comme il vient de finir et qu'il est 23h, demain il fera lire à sa sœur. Lui ne veut pas relire tout ça. Il range sa pile de papier. Sur son bureau, se déshabille et se couche. Le vide de son cerveau lui fait peur. Le matin est venu, se lève, s'habille, fait sa toilette et va rejoindre sa sœur à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. S'asseoir en face d'elle. Et lui dit, voilà, c'est fini. Elle lui dit, tu as enfin fini ta nouvelle? Que j'en suis heureuse. Ce n'est plus une nouvelle, mais un bon gros roman. Je vais te le faire lire. Oui, je veux bien. Et ils prennent leur petit déjeuner. Ensuite, Charles-André va chercher le manuscrit, le lui donne. Elle va le lire au salon. Elle lui dit, moi je vais marcher un peu. Apolline lit le roman. Elle le trouve intéressant. Dans la soirée, elle a fini de le lire. Ils sont tous deux assis au salon. Elle lui tend les feuilles. Qu'est-ce que tu en penses? Elle lui répond. J'ai beaucoup aimé, mais ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis demandé si moi ou toi, nous n'aurions pas pu faire la même chose, avoir la même réaction vis-à-vis de la famille. Car son crime est dû à son éducation, à son... l'enfermement. Elle avait une vie trop stricte, trop fermée. Et comme elle ne pouvait pas s'exprimer, faire ou dire, son esprit s'est mis à vagabonder dans une histoire d'amour illusoire. Cette histoire d'amour est devenue quelque chose d'énorme à cause de la solitude de sa vie. Et un jour, elle a voulu extérioriser son amour. Et puis, Elle a voulu sortir de la vie qu'elle menait. Elle a vite compris qu'elle était attachée, ligotée à cette vie par sa famille. C'est ses parents qui l'empêchaient de vivre. Alors elle décide de les supprimer. Je crois que n'importe quelle personne qui aurait vécu comme elle aurait fait la même chose. Ce qui me fait peur, c'est, en te lisant, c'est que moi aussi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Si nos parents nous avaient empêchés de partir, qu'aurais-je fait? Et en pensant à tout ça, je me demande ce que représentent pour moi mes parents. Est-ce que je les aime? Est-ce que je n'aime pas mieux ma liberté qu'eux? Ne suis-je pas quelqu'un d'immoral, de méchant? Et qu'est-ce que la famille? Est-ce que l'on aime instinctivement des personnes parce que simplement ils ont le même sang que vous? Ou est-ce que l'amour, c'est une chose qui vient comme ça, sans lien, mais juste par affinité du cœur? Voilà, tout à ce quoi m'a fait penser ton roman, Jean-André lui dit. Ça me touche beaucoup. En écrivant, je me pensais pas du tout, posais pas du tout ces questions. Ce qui m'intéressait, c'est surtout la force de caractère de cette fille qui fait tout avec sang-froid. Une fois que la chose va mal, elle ne regrette rien. Tout sauf retourner en arrière et se dire que les choses sont faites et qu'il faut accepter les conséquences. Toujours aller de l'avant, ne rien regretter. Un personnage très fort. Je crois que peut-être, je crois que des gens de ce caractère existent. Ça fait froid au dos, car ils sont prêts à tout. Mais quelle noblesse! Il y a de la noblesse dans ce genre. Alors, le livre t'a beaucoup plu? Oui, beaucoup. Il est très dense, passionnant. On ne sait jamais ce qui va lui arriver. Il lui demande, tu ne trouves pas qu'il lui arrive trop de choses? Ça ne fait pas trop roman populaire? Elle lui dit, non, pas du tout, c'est très logique. Tu ne la transformes pas, elle ne reste pas, elle reste tout le long du roman ce qu'elle est au début. Elle ne devient ni plus mauvaise, ni plus bonne. Elle ne se transforme pas en princesse ou même une vie misérable. Sa vie de prostituée n'est pas sordide du moment qu'elle accepte. Elle joue le jeu. De toute façon, le plus horrible pour elle, ce n'est pas son présent, mais le passé qu'elle a oublié. Même lorsque la police la prend, elle accepte tout, même la mort, du moment qu'elle ne revit pas ce qu'elle a vécu avant son acte. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'elle n'en veut à personne, même pas à ses parents. Elle les tue, pas par haine, mais parce qu'ils sont un obstacle à sa vie. Et le prince non plus, il ne l'a pas vu, mais ce n'est pas de sa, il ne sait pas qu'elle existe, ce n'est pas de sa faute. Elle en veut à personne. C'est elle qui voulait vivre en rêve, c'est de la faute à personne, et accepte ses punitions. Des illusions. Voilà, maintenant il faut en faire quelque chose de ce roman. Il lui dit, je vais l'envoyer à un éditeur à Paris. Mais je ne crois pas que ça puisse plaire. Pas assez mélo, description trop sèche, immorale, je t'aurais connu. Enfin, nous verrons bien. Elle l'embrasse et lui dit, c'est moi qui vais faire le paquet pour l'envoyer. Ça te portera chance. Ils ont envoyé le paquet et attendent. Il lui dit, après l'avoir envoyé, après la réponse, j'aimerais voyager un peu. Je suis fatigué. Pauline aussi est fatiguée. Le manque de drogue la met sur les nerfs. Chalandré, décrire, la désintoxiquer. Mais le retour à l'inaction, le cerveau avide, il peut avoir besoin d'aide. Pour le moment, le frère et la sœur sont une bonne bonhomie de sucreries. À tout moment de la journée, il faut qu'ils mangent des bonbons, petits gâteaux et même du sucre. À part les courses, ils ne vont presque pas au petit village calme de Saint-Tropez. En attendant la réponse de l'éditeur, ils passent leur temps à se reposer. Apolline ne le dit pas, mais elle préfère le livre de Jules. Il est plus près de sa sensibilité, cruel, mais d'une cruauté romanesque, tandis que celui de Charles-André est sec, sombre. Mais elle est fière de ses deux frères, qui à eux ont réussi à créer de belles choses, tandis qu'elle, elle n'a rien fait, à part ce petit tour de chant. Elle se demande si ça n'aurait pas été plus facile d'apprendre la peinture pour s'exprimer. Elle se demande aussi si elle a du talent. Charles-André aimerait pouvoir partir en Italie. Il le dit à sa sœur. Nous avons de l'argent, autant en profiter, elle lui demande. Tu n'aurais pas envie de retourner à Lyon, retrouver ma chambre? Non, merci. Et puis que ferais-je là-bas? Je redeviendrai le fils bien sage, jeune homme, et veux vivre, elle lui dit. En parlant d'homme, si les gendarmes savaient où tu habites, ils viendraient te chercher. Je ne suis pas sûr qu'ils vont nous laisser passer la frontière. Tu es considéré comme déserteur, si l'on veut. Charles-André soupire et lui dit « Nous verrons bien. » Un matin, Charles-André reçoit une lettre de l'éditeur qui lui dit que son roman l'intéresse et lui donne rendez-vous à Paris la semaine suivante. Il va vite le dire à Apolline qui est au salon. Elle lui dit, il faut y aller. Il lui demande, une fois à Paris, que ferons-nous? Nous logerons à l'hôtel, le temps que l'affaire se fasse. Et une semaine plus tard, ils sont partis pour Paris. Arrivés à Paris, ils cherchent un hôtel convenable. Ils en trouvent un et le lendemain, Charles-André va voir son éditeur qui se trouve dans un immeuble vétuste. Charles-André va sonner à la porte du premier étage. Thank you. petite femme en gris lui a ouvert.
« Oui ?»«
Je suis Charles-André Beaumandin. J'ai rendez-vous avec monsieur Robert Belfort. »«
Entrez, monsieur. »
Charles-André entre.
Elle le mène jusqu'au fond du couloir, un couloir rempli de piles de livres. Là, au fond du couloir, elle ouvre une porte. Entrez, monsieur. Il entre.
La pièce est petite avec un petit bureau, deux chaises et une pile de livres à terre. Un petit homme à moustache, sans âge, est assis au bureau. Il dit à Charles-André, « Venez vous asseoir, monsieur. » Charles-André va s'asseoir. L'homme lui dit, « J'ai lu votre roman, qui me plaît beaucoup. Je suis prêt à vous l'éditer. Mais pour ne pas effaricher les bonnes âmes, je vous demanderai c'est une fin repentante. » Charles-André, attristé, lui dit, « C'est impossible. Le thème du livre, c'est justement le non-repentir. Elle ne ressent pas de remords ni peine quelconque. Elle subit ses actes. » L'éditeur lui dit, « C'est immoral. Si vous voulez, mais c'est dû à son éducation, environnement, étouffant, sans avenir. Il fallait qu'elle casse ses chaînes pour se sentir libre. Je comprends très bien, mais le lecteur veut que la morale ait le dernier mot. Et puis, vous rendez compte, le milieu catholique, lorsqu'il va lire la description que vous faites d'eux, ils seront furieux. Ne pourriez-vous pas faire de ces gens des ouvriers canuts ? Là, la chose pourrait passer plus facilement. Si ça se passe, c'est le peuple. Ce n'est pas pareil. » Charles-André lui dit, « Oui, bien sûr, c'est comme si c'était chez des pygmées. Si vous enlevez le contact social, si vous me demandez une fin morale, mon œuvre est complètement défigurée. Nous n'agirons pas, monsieur. Je vous laisse tout de même. Tout ce qui... Je ne touche pas la longue partie qui se passe à Paris. Là, aucune importance. On peut y aller. » Charles-André lui répond, « Qu'une fille devienne putain, cela ne gêne pas les bien-pensants. » « Non, pas du tout. Surtout si elle est d'une famille de canuts. Tout le monde sait que le laisser-aller des ouvriers mène à ce genre de choses. Et puis à la fin... » et réécrivez tout ça. » Charles-André lui répond, « Ce que vous me demandez, c'est de transformer mon œuvre en commande de bazar. Non, je ne peux accepter. » L'éditeur soupire et lui dit, « Bien, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. » Charles-André lui demande, « Vous me rendrez mon manuscrit ? » ?»«
Vous le prendrez à ma secrétaire. Au revoir, monsieur. »
Charles-André se lève. « Au revoir, monsieur. » Et il sort du bureau. Dans le couloir, il retrouve la dame. « J'aimerais reprendre mon manuscrit, s'il vous plaît. » Il est en haut d'une pile à terre. « Tenez, monsieur. » « Merci. » Et il sort. De retour à l'hôtel, il va à la chambre de sa sœur et lui raconte tout. Ils sont tous deux assis sur le rebord du lit. Elle lui dit, « Tu as bien fait de refuser. » Il lui répond, « Encore un livre qui ne pourra être édité. »
Pour dîner, ils vont au restaurant. Apolline a voulu qu'ils aillent dans un bon restaurant. Puisqu'ils sont à Paris, autant en profiter. La salle est pleine, un petit orchestre joue. On leur a donné une table à deux couverts, commandé leur menu et mangé. Tout à coup, ils voient venir vers eux Paul. Bonjour, quelle surprise ! Charles-André lui dit. Bonjour Paul. Paul leur demande. Vous êtes de retour à Paris ? Charles-André lui répond. Tout juste de passage, nous sommes venus ici pour un éditeur. Parce que j'ai fini un roman. Malheureusement, ça n'a pas marché. Paul leur demande. Je peux m'asseoir un instant avec vous ? Ils font oui de la tête. Paul demande à un serveur de lui apporter une chaise. Une fois qu'il est assis, il leur dit. Alors, vous continuez à écrire ? Oui, c'est bien ça. Moi, j'ai arrêté depuis que je suis veuf. Je ne peux plus écrire. L'oisiveté, ça tue. Il sort son tabac pour se préparer une cigarette. Vous en voulez ? Jean-Lantré lui répond. Non, je ne fume pas. Tout en préparant sa cigarette, Paul lui dit. Ah, pour ça, tu as raison. La nicotine. Mademoiselle Apolline, elle connaît. Apolline rougit. Jean-André dit. Ma sœur, mais elle ne fume pas. Paul lui dit. Elle ne fume pas, mais elle connaît les risques du tabac. Jean-André regarde sa sœur qui ne dit rien. Paul continue. Mais ce n'est pas des choses à parler en public. Si vous voulez, nous pouvons aller chez moi, finir la soirée. Apolline lui dit. Non, merci, j'aime pas. Et puis, nous sommes fatigués. Charles-André, curieux, leur dit. Je ne suis pas du tout fatigué.